aviateur de l'avenir, voler, blanc, libre et sans bornes, l'infini est devant vous. Cette phrase est signée Yves Klein, on peut la lire comme quelques autres de cette exposition. Dans cette exposition, le ciel comme atelier Yves Klein et ses contemporains, à voir jusqu'au 1er février au centre Pompidou-Metz et dont vous êtes la commissaire. Emma Lavigne, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes en effet depuis un an la présidente du Palais de Tokyo à Paris et nous allons évidemment en parler. Mais commençons par cette exposition du centre Pompidou-Metz que vous avez dirigé, ce centre durant 4 ans. Pouvez-vous nous présenter cette exposition? Quel était le fil?
Le fil, c'est déjà une mise en correspondance d'Yves Klein, grand artiste qui est souvent rattaché au mouvement du nouveau réalisme. Et j'avais envie de le mettre en correspondance avec d'autres artistes, des artistes allemands, notamment du groupe Zéro, des artistes italiens comme les spatialistes Fontana, et puis aussi des artistes japonais du mouvement Gutai, pour montrer combien Yves Klein n'a eu de cesse de s'avancer dans une quête de l'immatériel. Tous ces artistes ont été marqués par la tabula rasa de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont au-dessus de leur tête une sorte de menace qui les incite à créer autrement. La guerre nucléaire, dans le contexte de la guerre froide. Et l'immatérialisation de l'art est aussi une façon de résister à un monde où la destruction est une menace latente.
En 58, Yves Klein a écrit « Il nous faut, et ceci n'est pas une exagération, penser que nous vivons à l'ère atomique où tout ce qui est matériel et physique peut disparaître du jour au lendemain. » Comment est-ce que cette conscience, ce que vous décrivez là, passe dans ses œuvres ?
Alors en effet, cette conscience est très forte, il va même jusqu'à dire que ses œuvres sont les cendres de son art. Pour privilégier des performances, on connaît les fameuses anthropométries où des corps viennent véritablement se plonger dans la couleur, donc toutes sortes de performances, mais aussi des projets que peut-être les gens connaissent moins, comme l'architecture de l'air, où Klein, dans un moment, donc au tout début des années 60, avant sa mort en 1962, où les pays sont engagés dans des politiques de reconstruction architecturale, il va inventer une architecture d'utopie, mais qui laisse l'homme léviter dans le ciel, il laisse l'homme libre de ses mouvements, de ses rêves. Donc il y a sans arrêt cette part d'utopie qui vient traverser son art, qui vient le faire travailler aussi au plus près de la nature. On peut dire qu'il anticipe certains mouvements comme le Land Art, où il vient capter la vibration du temps, de l'air, de la pluie, de l'humidité sur une plage, pour que l'art véritablement capte cette pulsation absolument sensible du vivant ou de ce qui peut rester vivant face à cette menace de la destruction.
Alors il faut nous décrire peut-être ces travaux moins connus justement.
Alors peut-être commencer par l'exposition qui a été mise en scène par Laurence Fontaine dans cette architecture blanche de Shigeru Ban et Jean de Gattine. Donc on est plongé dans un immense espace. On a essayé de brouiller les distances entre le mur et le sol. Et il y a donc des chefs-d'œuvre d'Yves Klein qui sont mis en correspondance avec d'autres œuvres. Donc par exemple, on commence l'exposition avec une mise en relation un extrait du film de Rossellini, L'Allemagne année zéro, qui initie un nouveau départ, une prise de conscience d'un nouveau monde à réinventer. C'est d'ailleurs le titre que vont prendre ce groupe d'artistes, le groupe zéro. Et face à nous, quand on rentre, tout de suite, on est saisi peut-être par une terrible beauté, une grande anthropophagie qui fait référence donc à Tennessee Williams, soudain l'été dernier, qui relate entre autres dans la scène finale une sorte de dévoration cannibale d'un jeune homme qui est donc dévoré par ses pères. Et Klein pose cette question terrible, ne vaut-il pas mieux être dévoré par ses pères que d'être tué par la bombe atomique? Donc on commence par quelque chose de l'ordre d'une explosion, mais tout au long du parcours, cette menace latente de la guerre, cette aussi la place à des choses de toute beauté, comme on a un mur de monochrome, d'une sorte de polychromie, qui est mis en dialogue avec une œuvre d'un grand artiste du mouvement Gutai. Il s'agit d'une lévitation de la couleur pure dans des hamacs qui sont suspendus dans le ciel de l'exposition. Et donc on voit que Klein a une perception absolument infinie et inédite de l'art, vu qu'il va jusqu'à dire les couleurs sont les véritables habitantes de l'espace. Donc c'est vraiment cet espace sensible, cet espace du ciel qu'il faut reconquérir. Et il est très sensible aussi à tout ce que font ces artistes japonais du mouvement Gutai à ce moment-là, qui vont jusqu'à imaginer des festivals de sky art où des ballons ou des œuvres d'art viennent flotter dans le ciel. Et Klein en connaît cette performance magnifique de 1001 ballons qui s'envolent dans le ciel. Donc on comprend que l'art quitte définitivement le statut d'un tableau ou d'une sculpture pour venir générer d'autres formes par le corps, avec ce fameux saut dans le vide, par l'anthropométrie, mais aussi par rapport à l'espace et à l'architecture qui est complètement inédit.
Alors, visiblement, en tout cas selon le centre Pompidou-Metz, le public est au rendez-vous de cette exposition. C'est évidemment un enjeu très important après des mois de fermeture et Malavigny.
C'est vraiment une joie parce que cette exposition, comme souvent les expositions, c'est des récits imaginaires que l'on commence dans sa tête des années en amont. Ensuite, il y a tout un principe de réalité vu qu'il faut trouver les œuvres et on a eu des prêteurs, notamment les archives Klein qui ont été avec le Centre Pompidou extraordinaires parce que il a fallu décaler l'exposition et cette exposition, je l'avais pensée comme un des événements phares des 10 ans du Centre Pompidou-Metz. Et je pense que là, ce qui m'a énormément passionnée, c'est de faire une exposition monographique, mais qui est d'une certaine façon une exposition collective. C'est-à-dire que Klein n'est pas tout seul dans sa tour d'ivoire, mais il dialogue avec une trentaine d'artistes, et notamment ces artistes allemands. À Metz, on est en proximité avec l'Allemagne, et c'est vrai qu'il y a, aux dernières nouvelles, à peu près 50% de la fréquentation habituelle du Centre Pompidou-Metz, et donc les gens viennent très nombreux découvrir la programmation estivale qui est extrêmement riche.
Alors, vous aviez donc dirigé le Centre Pompidou-Metz pendant 4 ans. Depuis un an, vous êtes la présidente du Palais de Tokyo. Pour rester sur le moment là que nous vivons, le 20 mai, vous étiez Emma Lavigne sur France Culture avec Arnaud Laporte pour Imagine la culture demain. Vous disiez espérer que l'on ne se replie pas sur nos frontières, que l'on reste curieux et inventif. Un peu plus de 2 mois plus tard, qu'en pensez-vous? Êtes-vous un peu rassuré sur notre capacité collective à rester curieux et inventif?
À rester curieux, j'ai envie de vous dire que c'est facile avec vous et avec France Culture parce que c'est des petites étincelles de créativité et de pensée. Je pense que passer ce moment de sidération très forte, qui est en même temps, je pense que c'est important aussi de refuser à certains moments d'être dans une surproduction d'idées, de prise de conscience. Donc ces moments de vide, et c'est aussi quelque chose que m'a enseigné le travail sur cette exposition Yves Klein, Le ciel comme atelier, ne pas avoir peur de ces plages de silence, de ces zones blanches, de ces périodes de totale incertitude. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est de continuer à prendre des risques, de continuer à essayer à la fois de raisonner avec le temps présent, avec cette pulsation parfois qui nous emmène vers des stridences, vers des dissonances, des formes d'agressivité, et puis aussi ménager des espaces de pensée, de contemplation. Donc nous avons, Palais de Tokyo, avec l'ensemble de l'équipe, déjà choisi de continuer à donner la parole à la quarantaine d'artistes qui étaient dans notre palais endormi. Donc les expositions que nous avions ouvert donc le 20 février, oui. On continue à faire résonner ces 40 voix de Ulla von Brandenburg aux artistes de Notre Monde Brûle, Nicolas Dauban et Kevin Rouillard, et c'est assez vertigineux de voir que toutes ces voix sont complètement en résonance très très fine avec le temps que l'on vient de traverser et gardent toute leur pertinence. Donc je crois que notre inventivité, c'est essayer de capter justement la justesse de ces voix qui s'expriment. Et puis nous allons aussi donner la parole à l'école de Courtrage-Mais, donc fin août, donc une exposition qui se fait dans des délais assez courts, une sorte d'exposition capsule, mais où l'on on donne la parole à ces élèves de cette école absolument incroyable où le cinéma rencontre le graphisme, qui va résonner aussi avec la période que l'on vient de traverser, et puis aussi
Courtrage, mais donc juste pour rappeler, c'est voilà, ça a été, on l'a connu peut-être de façon plus importante avec Les Misérables, c'est l'âge lit.
Complètement. Faire le portrait de cet héritage, donc de La Haine de Mathieu Kassovitz jusqu'au Misérable de l'âge. Et donc, il y a tout un ensemble d'étudiants qui ont, eux aussi, ont été confinés et tout à coup qui prennent aussi ce terrain incroyable des banlieues comme terrain d'exploration, d'imaginaire. Et c'est aussi quelque chose d'important que le Palais de Tokyo soit ouvert à ces territoires, souvent de la périphérie de Paris. Mais il y a cette phrase de J.R. qui participe à l'exposition qui m'a beaucoup marquée, le fait que les banlieues peuvent sembler par leur architecture quelque chose qui sépare, mais aussi quelque chose qui peut unifier. Donc le Palais de Tokyo est vraiment pour moi une sorte de lieu de rassemblement aussi de la société. Nous allons avoir une réaction, j'ai envie de dire, presque épidermique à cette crise.
Voilà, parce que ça n'était pas prévu. C'est quelque chose que vous avez ajouté.
Tout à fait. Pour la fin du mois d'août. C'est une exposition qui s'appelle Anticorps, qui rassemble une vingtaine d'artistes, la moitié d'artistes français, la moitié d'artistes de la scène internationale, qui vont travailler, alors il y a des œuvres déjà existantes, mais justement sur cette période de distanciation. Quel est le rapport à l'autre, à nos peaux, à cette forme d'hermétisme qui à la fois nous sépare et qui invente d'autres types de comportements, un rapport au corps qui est complètement à réinventer finalement. Donc on continue, je dirais, à faire résonner ces voix et puis en même temps on infléchit la programmation pour pas coller à l'actualité, mais en tout cas générer de nouveaux...
Pour être une caisse de résonance des enjeux de notre monde, comme vous avez dit.
C'est oui, c'est ça, c'est ça. Et essayer vraiment de que l'art se fasse aussi le porte-parole du temps présent.
Vous aviez dit aussi dans la même idée vouloir faire du Palais de Tokyo une plateforme de pensée. Est-ce que ça peut passer justement par encore d'autres formes, d'autres propositions que les expositions?
Tout à fait. Ça a été quelque chose évidemment d'un peu cruel parce que nous avions initié cet hiver tout un programme de réflexion, Fragmenter le monde, qui emprunte d'ailleurs son titre à l'ouvrage de Joseph Rapanel-Ihora, qui montre combien dans cette fragmentation du monde, il y a aussi d'autres possibilités de recomposer autrement le monde. Donc nous avons activé cette réflexion très forte, notamment dans l'exposition Notre monde brûle, et un deuxième temps qui aurait dû commencer dès le mois de juin, c'est l'exposition Ubuntu, un rêve lucide, dont Marianne Yamsi est la commissaire, que l'on va reporter en juin prochain. Et qui active justement cette question du faire ensemble, de faire humanité ensemble dans un moment où le monde est fragmenté. Donc ça passe par des expositions, mais la question de la parole va, dès que l'on va pouvoir rassembler davantage de visiteurs pour des événements liés à la parole, on souhaite véritablement activer davantage de conférences, de prises de position. Le Palais de Tokyo avait lancé avec Jean Deloisy cette idée d'alerte, de donner des alertes, mais aussi de réagir. Et c'est quelque chose qu'on a hâte de pouvoir mettre en place dès que cela sera possible. Une sorte de radio finalement. On va faire plus de choses ensemble.
Alors, parce que donc effectivement cette crise vous a forcé à revoir un peu les choses. Il y a la carte blanche à Anne Imhoff qui était prévue à l'automne et décalée de quelques mois, je crois.
Tout à fait, c'est une exposition, j'ai envie de dire, sismographe du temps présent. Cette exposition qui va s'appeler Nature morte, qui est hantée aussi par toute la pensée, la littérature française et certaines figures de la fin du 19e siècle, nous emmène vraiment dans un temps extrêmement contemporain où Anne Imhoff transfigure le palais avec une architecture de verre qui évoque aussi des cellules d'isolation, des performances avec des performeurs qui viennent habiter l'espace du Palais de Tokyo. Et puis le vertige d'œuvres plastiques d'Animoff mises en correspondance avec le travail d'autres artistes. Donc c'est une sorte d'œuvre d'art totale, si je puis dire, qui va avoir lieu en février. Et ce décalage dans le temps de la programmation a aussi permis à Animoff d'être au plus près en termes d'émotions, comment ces émotions, comment cette période de confinement, d'angoisse pour quelqu'un qui s'exprime aussi avec des corps, comment le projet en février va se nourrir de ce contexte complètement inédit. Donc évidemment, toutes les institutions ont eu à travailler avec une sorte de report d'exposition. C'est parfois une sorte de gymnastique absolument incroyable.
Et ce sont aussi, Emma Lavigne, des conséquences financières, évidemment. Il faut aussi évoquer ce mode de financement tout de même particulier du Palais de Tokyo, avec 60% environ, je crois, de financement propre, mécénat, privatisation. Dans quelle mesure allez-vous, pouvez-vous travailler sur ce modèle? Souhaitez-vous le faire évoluer?
Nous avons en effet un modèle qui est en même temps extrêmement stimulant parce que qui nous permet avec beaucoup de flexibilité de faire des liens avec des entreprises privées. On est au Palais de Tokyo une sorte d'écosystème qui peut être extrêmement dynamique. Pour moi, c'était réjouissant d'arriver dans un lieu où il y a aussi deux restaurants, une boîte de nuit. Bon, la boîte de nuit, le yo-yo actuellement est fermé, mais aussi une librairie et on travaille la main dans la main avec, par exemple, les Fashion Week, avec toutes sortes de privatisations qui font du Palais de Tokyo, en effet, une institution qui n'est pas vraiment institutionnalisée parce que, justement, on travaille dans une dynamique privée-publique qui est aussi un modèle passionnant. On traverse une crise, vu que, évidemment, une très grande partie de nos ressources se sont effondrées, comme beaucoup. On n'est pas les seuls. On a confiance pour réinventer aussi d'autres formes de collaboration avec notamment des mécènes. Nous lançons par exemple un passage très important où nous lançons une procédure de RSE, donc de responsabilité environnementale et sociétale du Palais de Tokyo. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'autres mécènes sont intéressés par cette transition notamment environnementale, par un palais de Tokyo plus solidaire, et nous avons confiance, même si ça va pas se faire en un claquement de doigts, que le modèle du Palais de Tokyo puisse aussi intégrer des prises de conscience très fortes par rapport à l'évolution de la société. Combien cette crise sanitaire est aussi une crise écologique plus vaste, et on a tous une transition très profonde à faire.
Et confiance aussi en votre capacité à toujours pouvoir bénéficier des moyens dont vous avez besoin pour mener vos projets?
Oui, nous avons déjà eu la chance d'avoir un soutien de l'État. Nous espérons, nous avons réouvert le palais, alors on n'en est pas à 50% de notre fréquence, mais on sent des frémissements, pour reprendre le titre de l'exposition de Susanna Fritscher au Centre Pompidou-Metz, mais des frémissements avec des visiteurs qui viennent plus nombreux, notamment le week-end dernier, on entend parler anglais, allemand, donc on espère que passé ce moment de stupeur, les gens vont revenir dans les immenses espaces du Palais de Tokyo où évidemment tout est fait pour les accueillir.
Merci beaucoup Emma Lavigne. Merci. Rendez-vous donc au Palais de Tokyo à Paris et au Centre Pompidou-Metz pour cette exposition dont nous avons parlé également, Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains, jusqu'au 1er février. Merci à vous.
Merci.